Bienvenue. Donc là, on est 50. J'avais parié sur les deux tiers des inscrits. J'ai gagné mon pari. Écran entier autorisé. Et voilà, c'est parti. Alors là, je vous vois plus. Je vous montre ma présentation. Donc, je vais vous parler d'intégration continue. Dans l'annonce, il y avait une mention assez spécifique sur les runners. Donc, j'ai pris le parti, étant donné que je ne savais pas quelle était exactement mon audience, de m'adresser à tout le monde. Donc, je vais parler de manière générale d'intégration continue, voire un peu plus, avec une section vraiment sur les runners. Enfin, j'ai 60 slides. Je vais faire assez peu de démonstrations. J'en ferai une à la fin. Je vais surtout essayer de balayer le sujet et essayer de le rendre compréhensible à tous. Voilà, donc en introduction, je vais commencer par une série de définitions sur lesquelles on reviendra par la suite. Donc, je vais commencer par la définition vague de ce qu'est l'intégration continue. C'est l'application d'une chaîne d'opérations à chaque modification d'un code source. Donc cette définition est volontairement vague, mais elle est quand même à la son utilité, on le comprendra à la fin. Il y a la définition Wikipédia, qui est très bien. Donc, c'est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel qui consiste à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. Donc là, on voit que ça spécifie surtout ça fait référence, l'intégration continue, ça fait référence à des pratiques, à des outils et à un objectif, c'est-à-dire ne pas casser un projet. Et enfin, il y a la définition concrète, trop concrète, c'est celle qu'on pourra voir le plus souvent sur Internet ou dans une discussion. L'intégration continue, c'est quoi? Ah, bah, c'est l'exécution par un runner d'un pipeline de test unitaire lors d'un push sur une forge logicielle. Voilà. C'est la définition qui, pour les gens qui ne connaissent pas, ne veut absolument rien dire. Alors, on va développer tout ça, et voici le menu par lequel je vais vous manger. Donc, d'abord, je vais vous présenter très largement le contexte dans lequel s'inscrit l'intégration continue. Je vais développer le fonctionnement, l'intégration continue, en tout cas sur GitLab. C'est la forge que je connais, donc je vais parler de ce que je connais. Je vais passer un petit temps sur les runners. Je vais expliquer évidemment ce que c'est avant dans le fonctionnement. Je ferai un petit tour par le déploiement continu, parce que c'est des choses qui sont intimement liées. Et je finirai par une petite démonstration assez courte, où juste je mettrai un petit projet complètement bête que j'ai construit hier soir. Je vous montrerai ce que ça donne concrètement. Voilà, donc ça c'est le portrait robot de l'audience que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc si jamais vous êtes expert en intégration continue, excusez-moi, je trouve que vous êtes bien meilleur que moi. Voilà, je m'adresse à un auditeur fictif qui n'y connaît rien, donc je vais partir de la base avec l'objectif d'être compris par tout le monde. Alors c'est parti, je vais d'abord poser un contexte. Alors, l'intégration continue, ça s'intègre dans le versionning. Si on ne fait pas de versionning, ça n'a pas trop de sens de parler d'intégration continue. Donc, les étapes fondamentales du versionning, pour rappel, c'est du fichier texte. On a du mal à versionner des binaires, à moins d'avoir un outil associé. Par exemple, la suite Microsoft a ses propres outils de versionning intégrés dans ses binaires. Mais quand on parle de versionning, on versionne du code, du texte, votre publication. Voilà, c'est du texte avant tout. La première étape donc du versionning, c'est d'éditer votre fichier et ensuite vous validez cette édition. Et le petit mot habituel qu'on utilise pour exprimer la validation d'une modification, c'est le commit qui vient du logiciel Git, il me semble. Voilà. Donc l'étape de versionning, c'est ça. On édite un fichier, on le commit, et le commit va définir la nouvelle version du fichier. Et donc, si on définit une version 3, on aura une nouvelle édition, un nouveau commit, etc. Alors l'intégration continue, c'est une étape supplémentaire dans ce flux de versionning qui va s'intégrer entre le commit et la création de la nouvelle version. Donc à chaque fois qu'on va faire un commit, on va lancer une chaîne d'action, on va lancer des calculs quelque part, Et ça, notre commit va générer la nouvelle version du document et il y aura un résultat supplémentaire à côté de la nouvelle version qui sera le résultat de l'intégration continue. Alors, quand je disais, ces actions, enfin, ces calculs sont faits quelque part, ils sont faits sur un runner. Alors, je vais faire modifier ma convention graphique. Donc, quand je vais parler d'une, je vais représenter par le logo du commit toutes les étapes de validation d'une nouvelle version, et je vais représenter par le commit avec une flèche rouge à double sens avec mes petits engrenages pour dire je fais un commit suivi de ma chaîne d'action. Donc, pour vous présenter les runners, je vais prendre un nouveau point de vue, un point de vue par acteur. Donc là, je vous représente un ordinateur portable qui représente l'utilisateur, qui travaille localement avec Git et qui produit des commits. Il va envoyer ses commits sur une forge logicielle, et ici, dans mon exemple, c'est GitLab, à travers Internet. Et ensuite, la forge logicielle GitLab va envoyer, va demander à une série de serveurs qui sont dédiés à cette activité de faire ces actions, ces jobs d'intégration continue. Donc la terminologie employée par GitLab, c'est le runner. Et en général, on utilise une machine dédiée extérieure au serveur GitLab et souvent même une grappe de serveurs parce que tout simplement, il peut y avoir beaucoup de jobs qui sont lancés pour un seul commit. Donc, pour des raisons de performance et surtout parce qu'on a très souvent plusieurs utilisateurs, gérer un commit, c'est quelque chose d'assez léger. Lancer une chaîne de jobs, ça peut être vite très lourd ou compliqué ou chronophage. Et dans ces cas-là, c'est pour ça quoi. La bonne pratique est d'utiliser des serveurs dédiés. Alors, dans le cas de GitLab, on peut utiliser aussi un runner local, c'est-à-dire une machine qui peut être votre machine de bureau allumée en permanence, qui est connectée à Internet. Et vous allez l'enregistrer dans la forge logicielle GitLab. Et à chaque fois que vous allez pusher votre commit, GitLab va lancer l'intégration continue sur votre serveur à vous. Voilà. Et donc ça, on le considère comme local et il sera dédié à votre projet. Donc ça, c'est une possibilité. Donc GitLab, en bilan, GitLab va recevoir des pushes, va lancer la chaîne d'intégration continue. Il peut la lancer au choix. Sur une grappe dédiée de runner ou sur un runner local que vous avez vous-même installé. Voilà, donc maintenant que je vous ai dit ça, on va essayer de prendre un peu de recul sur ce qu'est l'intégration continue. Donc, quels sont les besoins? Donc, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire à la main. Donc, on peut versionner à la main, donc on copie-colle, on peut copier-coller, on renomme, on fout une archive, fout ça dans une archive, voilà, on fait du versionnage à la main. On peut construire nous-mêmes chaque version et lancer une chaîne de test pour vérifier que tout se passe bien. Alors si vous faites ça, bravo, vous faites déjà de l'intégration continue, dans le sens de la définition de Wikipédia. Alors évidemment, on est en informatique, on a tendance à vouloir automatiser tout ça, et c'est une bonne pratique, donc on peut utiliser un logiciel de versionning comme Git pour automatiser le versionning. On peut automatiser la compilation si vous utilisez un langage compilé et l'exécution de la chaîne de test en utilisant un script, en utilisant Make encore mieux, puisque là vous pourrez avoir une granularité un petit peu plus fine. Voire même encore mieux, vous pouvez faire un Git alias dans lequel vous demandez à Git d'exécuter votre Make à chaque fois que vous faites un commit. Voilà, donc là vous avez tout automatisé. Alors si vous faites ça, bravo, vous faites de l'intégration continue presque dans le sens de la définition trop concrète voilà, ça marche très bien et dans la plupart des cas, si vous bossez tout seul ou avec une équipe restreinte, ce genre de pratique suffit et c'est très bien. Alors, les avantages d'automatiser, ils sont très largement connus, ça permet d'évacuer les efforts redondants. Et surtout, ça permet d'avoir une assurance de qualité. À chaque fois que vous lancez, que vous validez un commit, vous lancez la chaîne d'intégration continue, la chaîne de tests unitaires. Donc les tests unitaires, je l'ai pas précisé, mais c'est comme son nom l'indique, c'est un test qui va se porter sur une unité de code. Et plus vous en faites, plus vous couvrez les possibilités de votre code. Et donc chaque test va avoir pour rôle de vérifier que tout va bien, que vous n'avez rien cassé. Alors, l'étape suivante, et c'est surtout valable quand on bosse en large équipe, c'est de centraliser toutes les étapes communes. Alors, donc, on va utiliser une forge logicielle, c'est là qu'intervient GitLab, pour centraliser les modifications que chacun fait localement. Le besoin d'avoir des serveurs dédiés, nos runners GitLab, qui vont exécuter les builds et les tests. Alors, si vous faites ça, voilà, vous faites vraiment l'intégration continue dans le sens où on le rencontre en général sur Internet, la définition concrète, voilà, on y est. Alors, il y a des effets secondaires positifs pour les gens qui sont un peu dubitatifs à se lancer dans toute cette grosse artillerie, parce que quand même, c'est un effort supplémentaire. Alors, les effets secondaires positifs, ça va être de normaliser votre process, et donc ça, c'est super important quand vous êtes dans une large équipe, que vous êtes sûr que tout le monde, sans exception, va lancer les tests unitaires et que ce sera toujours les mêmes puisqu'ils sont centralisés. Le fait d'utiliser des runners, ça ne va pas bloquer votre machine sur laquelle vous travaillez. L'autre avantage, c'est que si jamais vos tests sont très gourmands, donc vous les déportez et en plus vous pouvez utiliser plusieurs runners, ce qui permet de paralyser votre travail et donc ça permet d'accélérer en plus l'exécution de la chaîne de tests. Et enfin, très important, on n'y pense jamais sur le moment, mais une fois qu'on est dedans, on se dit « Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal », c'est que ça force à tester son code sur des machines qui ne sont pas les vôtres. Donc vous êtes obligé de paramétrer l'environnement sur lequel vous allez exécuter vos tests, et là, ça nous fait poser des questions. Voilà. Donc c'est tout un tas d'effets secondaires auxquels on ne pense pas au moment où on se lance dans l'intégration continue. Donc c'est des efforts supplémentaires, mais qui valent franchement le coup, surtout quand on est en grande équipe. Alors, retour sur nos définitions de départ. Donc, ma définition concrète, maintenant, on la comprend a priori. La définition Wikipédia, donc c'est celle qui est relativement vague, c'est celle qui couvre la plupart des usages, y compris le fait de travailler tout seul et de se faire sa propre chaîne d'intégration sur sa machine. Voilà, vous faites de l'intégration continue au sens de Wikipédia. Et ma définition vague, elle a une utilité dans le sens où vous pouvez utiliser les outils d'intégration continue, mais pas pour faire l'intégration continue. Dans le sens où à chaque fois que vous faites un commit, vous allez exécuter quelque chose, mais c'est pas forcément une chaîne de test. Et là, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez exécuter. Ça peut être absolument n'importe quoi. C'est ce que couvre ma définition vague. C'est-à-dire, on utilise les outils, mais pas forcément les pratiques. Et ça rentre d'une manière très large dans la définition de l'intégration continue. Ok, alors maintenant qu'on est à peu près tous sûrs de parler la même langue, je vais vous parler du fonctionnement de GitLab, de l'intégration continue dans GitLab. Alors, la première étape, c'est d'activer l'intégration continue dans votre projet, qui est déjà hébergé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis la version 8.0, donc là, j'ai regardé hier soir le 11 février 2021, c'est la dernière version qui est sortie, c'est la 13.8.4, donc a priori, toutes les instances GitLab que vous rencontrerez sont déjà couvertes par cette chose-là, c'est que par défaut, GitLab active l'intégration continue. Donc, il n'y a a priori rien à faire d'un point de vue administration. Alors, du point de vue utilisateur, il y a trois éléments. Il faut être propriétaire du projet pour pouvoir l'éditer. Il faut donc configurer ses runners et la plupart du temps, il n'y a rien à faire non plus, puisque si l'administrateur du serveur GitLab a déjà activé les runners, il va mettre des runners partagés et ils sont déjà préconfigurés, ils seront lancés par défaut sur ces runners partagés. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est de créer un fichier .gitlab-ci.yaml dans la racine de votre projet. Et voilà, ça y est, vous faites de l'intégration continue. C'est super. Alors les gens qui ont de l'expérience, ils vont se dire où est la difficulté? Alors effectivement, il y a une difficulté et elle est dans le gitlab.ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fichier? C'est donc déjà, il commence par un point. Les gens qui sont sous Linux connaissent bien, c'est ce qui définit un fichier caché. Donc ça veut dire qu'il sera dans la racine de votre projet, mais il ne sera pas affiché par défaut, comme le point gitignore qui définit les fichiers à ignorer dans un projet Git, et il n'est pas affiché par défaut. Alors, c'est un fichier au format YAML, donc le YAML, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un XML lisible, donc ça permet de définir une structure de données un peu complexe avec des dépendances, et ça ressemble à ça. Donc voilà, là c'est une recette qui va décrire l'exécution de deux jobs sur les runners. Donc, le premier, il s'appelle test code job 1. Le deuxième, il s'appelle test code job 2. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va exécuter un script qui est composé de deux étapes. Donc, d'abord, il affiche quelque chose et ensuite, il exécute la chaîne de test qui est lancée par la commande make test 1. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu minimal, on va dire, d'une recette d'intégration continue. Alors, il y a beaucoup de mots-clés, enfin beaucoup, il y a quand même un certain nombre de mots-clés, un petit peu moins d'une trentaine, il y en a 28 ici que j'ai listé, qui peuvent être utilisés dans cette recette. On en a vu déjà un, c'est celui-ci, script. Donc il y en a tout un tas d'autres qui sont plus ou moins utiles, c'est-à-dire que vous allez les rencontrer plus ou moins rarement. Je ne vais pas tous les décrire du tout, je vais vous les introduire au fur et à mesure quand on les rencontrera. Alors, petite information, parce que c'est très bien caché à l'intérieur de GitLab, il y a un linter, c'est-à-dire un petit outil qui vous permet de vérifier la syntaxe de votre GitLab CI. Alors, il est très bien caché. Donc, depuis l'intérieur de votre projet, vous allez dans le menu intégration continue, le sous-menu pipeline, ou alors le sous-menu jobs. Et à ce moment-là, il y aura une petite icône qui sera cachée en haut à droite, c'est eLint, et ça va vous amener ici. Et là, vous copiez-collez votre contenu, vous le validez, et là, il va vérifier que la syntaxe est correctement acceptée. Et en plus, il va faire une petite analyse de ce que signifie votre truc. Donc, c'est un outil qui est très utile, ça évite de committer une série de tests qui ne fonctionnent pas alors que vous avez fait une erreur de syntaxe. C'est très, très important de savoir que cet outil est intégré. Alors, pour comprendre un peu mieux comment fonctionne la structure de notre set, il faut bien comprendre la notion de pipeline qui est associée à l'intégration continue dans GitLab. Alors, par défaut, tous les jobs que vous allez décrire dans votre recette vont être exécutés de manière concurrente, tous en même temps et indépendamment. Voilà, donc ça, c'est le comportement par défaut. Donc il y a évidemment des cas où on a besoin d'ordonner des choses, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'une action soit faite avant une autre, par exemple tout simplement compiler votre projet avant de lancer les tests. Dans ce cas-là, on va utiliser la notion de stage, et à chaque stage, vous pouvez associer un job qui vont être exécutés dans l'ordre dans lequel vous avez défini vos étapes. Alors, de manière globale, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on l'utilise le plus souvent. Chaque stage peut contenir plusieurs jobs et chacun des jobs dans un stage vont être exécutés de manière concurrente. Donc c'est bien important de retenir que par défaut les jobs sont exécutés de manière concurrente et qu'on peut les ordonner par stage et qu'à l'intérieur de chaque étape, tout est exécuté en même temps. Alors voici un exemple. Pour définir les étapes, vous utilisez le mot-clé stage. Là vous définissez une liste. Donc d'abord, vous allez faire l'étape build, puis l'étape test. Et ensuite, vous définissez vos jobs. Alors, chaque job ici aura le mot stage au singulier et on va faire référence à l'étape qui était définie tout en haut. Donc là, on a un job qui est dans l'étape build. Il fait sa vie. Et ensuite, on a deux autres jobs qui sont référencés dans l'étape test et qui font leur vie. Voilà donc. Pour résumer, pour récapituler, donc un pipeline, c'est composé d'un ou de plusieurs jobs. Les jobs sont exécutés toujours de façon concurrente, mais ils peuvent être organisés en étapes qui seront exécutées séquentiellement. Et tout ça, ce sera visible depuis l'interface quand vous lancerez, quand le pipeline d'exécution sera lancé. Vous avez juste à cliquer du coup sur les onglets pipeline. Là, vous aurez un accès à l'ensemble de l'historique de vos pipelines. Et vous pouvez aussi voir en temps réel un pipeline s'exécuter. Donc là, c'est une capture d'écran de la documentation. Vous voyez, il y a 5 étapes qui ont été définies. Ils sont clairement affichés. On voit qu'ils sont composés de plus ou moins de jobs. Il y en a qui sont en cours, qui sont déjà terminés avec le petit check vert. Il y en a qui sont en attente d'exécution, puisqu'il faut d'abord terminer chaque étape avant de lancer la suivante. Il y a aussi une notion de job manuel que je ne vais pas développer, puisque ça, c'est-à-dire c'est un job qu'on peut lancer seulement avec un bouton depuis l'interface et qui ne sera pas exécuté lors d'un commit. Donc c'est une possibilité qui existe et qui est intéressante. Voilà, donc maintenant qu'on a vu, compris, j'espère, l'existence du GitLab CI et la notion de pipeline, on va revenir sur les runners qui vont exécuter ces pipelines. Alors, d'abord, il nous faut installer notre runner. Et un runner, il peut prendre différentes formes, différentes natures. Donc ça peut être une machine virtuelle. Ça peut être un VPS, avec, je sais pas, vous pouvez le faire tourner chez Amazon, par exemple. Ça peut être une machine bare metal, la machine qui est sous votre bureau, ou un serveur en bare metal. Ça peut être un container Docker, ou voire même un cluster Kubernetes. Voilà. Il y a tout un tas de possibilités de nature de runner que vous pouvez utiliser. Le seul prérequis, c'est un accès réseau au service GitLab, parce qu'ils vont communiquer via l'API GitLab. Alors, le support officiel est très large, il couvre les architectures classiques x90, MD64, ARM, même ce truc-là que je connaissais pas qui vient d'IBM, voilà, je l'ai appris en faisant cette présentation qu'il existait cette architecture. Il couvre tous les systèmes d'exploitation communs avec la famille Red Hat et Debian de Linux, donc ça inclut Ubuntu, Fedora, tout ce que vous voulez, Windows, macOS, FreeBSD, donc voilà, le support est assez large. Pour ce qui est container, le support officiel inclut Docker, Kubernetes et OpenShift. Alors, un exemple d'installation chez Debian, puisque c'est mes habitudes personnelles. Alors, c'est très simple, c'est vraiment assez simple, ça se fait en deux exécutions dans un terminal. On ajoute d'abord le dépôt officiel, c'est pratique, ça permet de faire des mises à jour en utilisant l'OS. Donc un petit curl, machin, ça nous rajoute le dépôt dans notre liste de dépôt. Et ensuite, on installe la dernière version de GitLab Runner. Chez Debian, il recommande de mettre cette petite variable d'environnement qui permet d'éviter des bugs. Voilà, c'est vraiment un fil de sécurité, c'est même pas nécessaire, mais il la recommande. Voilà, donc deux lignes, vous avez installé votre GitLab Runner. C'est vraiment facile pour l'avoir fait. Alors, une fois que vous avez installé votre GitLab, il faut votre runner, il faut le connecter à votre instance GitLab. Alors là, il faut deux éléments. Il faut d'abord un token. C'est cette chose-là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur là en bas à gauche. Vous avez une chaîne de caractères qui sera votre token, qui est fourni par votre instance. Vous avez le bouton en dessous là pour la renouveler dès que vous avez un problème ou autre. Voilà, donc là, cette capture d'écran, elle est prise du côté utilisateur. Donc, pour récupérer un token, si vous êtes administrateur, vous allez dans l'interface administrateur, overview, runners, et là, vous aurez une fenêtre équivalente qui va vous fournir un token. Chaque instance aura besoin de son token. Et si vous êtes du point de vue utilisateur, dans la page de votre projet, vous allez dans les paramètres, la section intégration continue, la sous-section runner, et là vous aurez cette page-là, où c'est là où vous voyez, si vous voulez créer votre propre instance GitLab runner locale, vous copiez ce token, vous le conservez, et vous allez l'utiliser pour l'enregistrement. Alors ici, on voit à côté que les shared runners sont activés. Donc si vous voulez utiliser votre propre runner, vous désactivez les shared runners. Et par défaut, votre projet va aller chercher via le net votre machine avec en utilisant votre token. Voilà. Donc tout ça pour dire, pour enregistrer pour connecter votre instance runner à votre instance GitLab, vous allez chercher votre token. Il y a deux approches si vous êtes admin ou si vous êtes juste utilisateur. Dans les deux cas, c'est la même chose. Vous récupérez votre token et vous l'enregistrez. Pour ça, vous utilisez la commande GitLab Runner Register. Donc, c'est la même quasiment dans tous les cas, pour Linux, pour Windows, pour Docker. Mon Docker est connu pour la verbosité de ses paramètres, mais c'est fondamentalement la même chose. Et ensuite, vous avez des étapes d'enregistrement assez simples. Vous renseignez l'URL de votre instance. Vous fournissez votre token, vous faites une description de votre runner, donc là c'est arbitraire, vous pouvez le modifier après, vous avez juste à rentrer dans les paramètres de votre projet, éditer votre runner et hop, vous pouvez éditer tout ça. Associer des tags, je reviendrai là-dessus sur la notion de tag sur un runner. Préciser l'exécuteur. Alors, le plus souvent, c'est Docker. Vous pouvez aussi utiliser le shell, c'est-à-dire c'est dans quoi sera exécutée votre chaîne d'intégration continue. Vous pouvez l'exécuter dans le shell, c'est-à-dire vraiment depuis votre serveur, et il aura accès à tout ce qui est installé sur votre serveur. Ça peut être pratique si vous avez besoin de choses spécifiques, ou vous le lancez dans une image Docker qui sera effacée à la fin de votre test. Et si vous choisissez comme exécuteur Docker, il faudra préciser une image par défaut. Voilà. Donc si vous avez beaucoup de choses à faire, ou si vous êtes adepte du one-liner, bah, vous pouvez le faire en une seule ligne et vous renseignez absolument tout avec l'ensemble des options. Donc GitLab Runner Help, et puis vous trouvez toutes les informations nécessaires. Voilà, donc ça c'est pas plus difficile que ça pour installer et connecter votre instance GitLab Runner. Alors maintenant, je voudrais insister un petit peu sur la notion de tag, parce qu'elle est très utile. Alors l'usage, c'est spécifier un environnement préinstallé. Donc je le mentionnais tout à l'heure, si vous exécutez votre code si l'exécuteur de votre runner, c'est votre shell, vous pouvez mettre un environnement précis avec Ruby ou avec un compilateur qui vous est cher. Dans ce cas-là, vous taguez votre runner avec l'information qui lui correspond. Et comme ça va permettre de préciser un usage spécifique au moment de la réservation. Et la réservation, elle va se faire dans le gitlab-ci.yaml avec le mot-clé tag, c'est-à-dire sous cette forme-là. Vous définissez votre job. Donc là, c'est un job qui appartient à l'étape build. Ici, on a notre script. Et là, on va préciser le tag. Donc, c'est une liste. Donc, on peut préciser plusieurs tags. Et dans ce cas-là, GitLab va faire en sorte de trouver les runners qui cochent tous les tags que vous mettez. Là, par exemple, j'ai mis un tag LLVM qui fait référence au compilateur LLVM. Vous l'avez installé vous sur votre runner. Si vous avez plusieurs runners, GitLab va dire, alors lui, il veut un runner dans lequel il y a déjà LLVM grâce au tag. Et il va le sélectionner et l'aiguiller directement vers le runner qui correspond au tag-là. Et si vous avez plusieurs runners avec le même tag, il va sélectionner celui qui est disponible, tout simplement. Alors, au passage, j'introduis un autre mot-clé, c'est only, qui va faire une condition sur l'exécution de ce job. Là, c'est exécute ce job sur un runner tagué LLVM uniquement si on est sur la branche master. C'est assez pratique. Alors, il ne faut pas confondre la notion de tag dans Git et dans GitLab. Donc, dans Git, un tag, ça fait référence à un commit, donc c'est un tag sur un commit, et le tag GitLab, c'est un tag sur le runner. Alors, cependant, il est possible d'utiliser les deux en même temps, c'est-à-dire de faire référence à un tag Git dans le GitLab CI. Dans ce cas-là, ça va prendre cette forme-là, donc c'est exactement la même chose que précédemment. On précise un runner LLVM, sauf que là, je veux exécuter ce job uniquement si le commit a un tag associé. Par exemple, si vous êtes sur la branche master ou n'importe quelle autre branche et que vous dites « ce commit est associé à ma version 3.4.10 », GitLab va dire « tiens, il y a un tag de présent, donc je peux exécuter le job, sinon je ne le fais pas ». Voilà, un petit mot sur Docker, puisque c'est l'exécuteur le plus utilisé, c'est tout simplement parce que c'est pratique. Donc, la plupart du temps, on va exécuter notre chaîne de test sur une image Docker. Alors, on peut préciser une image Docker par défaut au moment de la création du runner, mais on peut aussi préciser une image spécifique dans notre recette. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé « image ». Et là, on va préciser n'importe quelle image Docker disponible sur Docker Hub et elle va être automatiquement téléchargée sur le runner. Et ensuite, notre chaîne de test sera exécutée sur cette image. Alors attention, chaque job est exécuté sur... Enfin, tout est exécuté à l'intérieur du runner. Alors, on peut utiliser une image locale, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de créer sa propre image Docker pour des raisons spécifiques, par exemple intégrer des outils, une base de données Postgres, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas forcément le trouver sur Docker Hub, mais vous pouvez créer votre propre image locale. Mais là, ça demande un petit peu d'effort. C'est un des rares endroits où ça grince un peu. D'abord, il faut configurer votre runner pour l'autoriser à utiliser des images locales. Donc, c'est en réalité, c'est une sécurité. Donc, il faut que vous vous rendiez sur votre runner en local, vous connectez en SSH, vous allez éditer le config.toml. Il y a une petite option qui va bien. Vous l'activez, vous relancez le daemon de GitLab Runner, et voilà, maintenant, il est capable d'accepter des images locales. Et ensuite, toujours en tant qu'administrateur sur votre runner, vous construisez votre image et maintenant elle sera accessible comme n'importe quelle autre image. Vous précisez image, my docker image et c'est parti. Alors, il y a une autre option, c'est de tout simplement construire votre image depuis votre RFC. Donc vous allez préciser, vous allez donner les éléments de construction de votre image Docker à l'intérieur de la RFC. Donc là, vous pouvez utiliser par exemple l'introduction d'un nouveau mot variable qui va vous permettre de ne pas répéter le nom de votre image. Autre outil très utile, c'est le before script qui va être utilisé avant l'étape script de tous les jobs. Donc tous les jobs vont exécuter cette étape before script. Donc ça veut dire que tous les jobs vont créer mon image. Là, j'utilise NoCache comme ça. Si jamais elle est déjà créée, ça va faire gagner du temps. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Il faudra que je l'enlève, c'est pas intelligent. Ensuite, je compile mon élément s'il a besoin d'être compilé. Et ensuite, chaque job va faire sa chaîne de test, toujours à l'intérieur de l'image. Alors ici, la différence, c'est que chaque job sera exécuté dans une image séparée. Donc c'est pour ça qu'il faut compiler au préalable avant à chaque fois. Alors, vous remarquerez que ici, je suis quand même dans une image Docker, donc ça veut dire que je télécharge l'image Docker la test, et donc je suis en train de créer une image Docker à l'intérieur de Docker dans mon runner. Voilà, donc pour les gens qui sont pas habitués, ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, on prend son temps, tout se passe bien. Il faut prendre son temps pour écrire son script. Là, ça devient un petit peu laborieux, mais en soi, c'est pas extraordinaire. Voilà, et surtout, la documentation est très bien faite, donc vous la retrouvez sur https://docs.gitlab.com/runner, et là, il y a vraiment toutes les étapes, il y a des exemples, c'est un exemple de documentation, c'est très 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 bien fait. Alors, un petit mot sur le déploiement continu, puisque en fait, on est très souvent, on en fait sans s'en rendre compte, et surtout, c'est des notions qui sont très proches. On sépare les deux notions parce que la première, enfin, grosso modo, les mêmes outils, c'est juste que l'objectif est un petit peu différent. L'intégration continue, c'est vraiment vérifier qu'on n'a pas cassé notre logiciel. Le déploiement continu, c'est déployer le résultat de notre code. Donc, en général, les deux vont ensemble, mais on peut très bien faire du déploiement continu sans l'intégration continue. Donc, c'est pas du tout aberrant. Alors, il y a deux notions qui sont importantes, qui sont reliées à l'écosystème GitLab. C'est les artifacts et les environnements. Donc, on va commencer par les artifacts. Alors, une petite description. Alors, un artifact, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'un job dans un pipeline. Donc, chaque job du pipeline peut renvoyer un ou plusieurs artifacts. Et ils sont stockés dans GitLab. Ils peuvent être téléchargés, ils sont accessibles aux utilisateurs. Alors, ça utilise cette syntaxe-là. Donc, j'ai un job qui s'appelle test. Ici, j'ai mon script qui va consister à écrire test dans un fichier qui s'appelle file.txt. Et là, je précise mot-clé artifact sous mot-clé path. Et donc là, je lui dis va chercher l'élément qui s'appelle file.txt et conserve-le. C'est tout. Donc ça veut dire que si vous exécutez ça dans une image Docker, le job va être exécuté, sauf que à la fin de l'exécution du job, GitLab va récupérer ce fichier, va le rapatrier sur GitLab, l'image de cœur va être effacée, tout sera perdu, sauf ce qui a été récupéré dans, et précisé dans l'artifact. Donc typiquement, l'usage, c'est au moment de la compilation, je veux récupérer mon binaire, mon exe ou ce que vous voulez, je le mets dans les artifacts, et comme ça, coup double, non seulement je l'ai compilé, je récupère la chaîne de test, et je garde le binaire et je le conserve dans GitLab. Coup triple, je peux le lancer, faire mon test sur différents environnements Docker, et comme ça je peux récupérer mon exécutable qui correspond à mes différents environnements. Donc il y a tout un tas de mots-clés qui sont associés à Artifact, on en a vu un, c'est PATH, mais on peut aussi préciser le nom qui sera... le nom sous lequel l'archive qui va contenir l'ensemble des artefacts sera récupérée par les utilisateurs, des notions d'exclusion, voilà, des petits trucs avec un grain assez fin pour paramétrer ce qu'on veut faire. L'important étant juste de dire voici le chemin des fichiers que je vais récupérer à la fin de l'exécution de mon job. Alors, le deuxième élément assez important dans le cadre du développement continu, c'est les environnements. Alors c'est presque c'est à peu près la même chose, donc c'est un environnement logiciel qui est créé par un job, donc chaque job peut créer des environnements différents, sachant que c'est un environnement d'exécution dans lequel est copié l'environnement du job. Donc vous allez retrouver l'équivalent. Et autre élément qui va différer par rapport à l'artifact, c'est que c'est un environnement qui peut être accédé par l'utilisateur via une URL. Alors ça, là c'est un petit peu plus dur à maîtriser. Surtout si personnellement, moi, je l'utilise pas, donc je le maîtrise moins. Je déploie pas, par exemple, si on déploie une page web, ça peut être très utile. Donc ça va ressembler à ça. On a notre job avec son étape. On a le script associé. Donc là, c'est MacDeploy. Donc là, j'ai toute l'artillerie de déploiement est contenue là-dedans. Je vais juste à préciser le mot-clé environnement avec son nom, donc c'est un tag, ça permet d'y faire référence, et l'URL dans lequel je pourrais y accéder. Donc ça veut dire qu'à l'issue de ce job, l'environnement sera conservé, un peu comme l'artifact est conservé après l'exécution, sauf que là, c'est pas juste une série de fichiers, c'est un environnement auquel je peux accéder et tester manuellement ce qui se passe, ou tout simplement déployer pour de vrai mon site web. Voilà. Alors ici, au passage, vous pourrez noter que j'ai utilisé des variables prédéfinies par GitLab. Donc là, vous avez la référence name du commit. Vous pouvez la récupérer directement là-dedans. L'environnement de Slack. Voilà, il y a tout un tas de variables d'environnement. C'est dans ces cas-là qu'elles sont très utiles. Alors évidemment, il y a quelques mots-clés associés. Il y en a un petit peu moins que pour Artifact, principalement, bon, il y a une qui est importante, c'est action, c'est que faire au moment, à l'étape du job. Par exemple, l'action, ça peut être l'instancier, le job suivant, ça peut être déployer quelque chose. On peut utiliser un job peut le déployer, un autre job peut le modifier. Voilà, les environnements peuvent être partagés aussi entre jobs. Voilà, donc là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je vais vous faire une petite démonstration qui va résumer un peu l'ensemble de ce que je viens de vous expliquer. Alors, pour ça, j'ai fait un petit projet Git. Voilà, donc c'est un petit projet Python qui s'appelle Prime Numbers, dans lequel j'ai une petite bibliothèque primenumber.py qui contient qu'une seule fonction, qui est capable de détecter si un nombre est un nombre premier. J'ai fait une chaîne de tests unitaire à la mode Python. Et voilà, c'est tout. Donc je vais créer un projet sur mon instance GitLab. Donc là, vous avez une vision sur mon compte. Je vais faire un nouveau projet. Hop, prime number. On peut faire une petite description. Créer le projet. Alors là, GitLab, il me propose tout un tas de petites lignes de commandes en fonction du cas dans lequel je suis. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, ce serait push an existing folder. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette commande pour dire, tiens, maintenant ton dépôt, il est enregistré sur le guide de l'université de Cergy. Voilà, je l'exécute. Et maintenant, je vais faire git push. Non, que je mette un petit peu plus. Origin master. Voilà, donc j'ai envoyé mon projet sur mon instance GitLab. Je mets à jour ma fenêtre et voilà, vous voyez mon petit projet intégré ici. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'intégration continue. Donc, comme je vous l'avais dit, pour faire de l'intégration continue, il suffit d'ajouter un petit fichier. Ici, plus configuration CICD. Donc, ça me permet de créer automatiquement mon petit GitLab.ci.yaml. Alors, je m'en suis préparé un hier soir. Tac. Alors, vous voyez qu'il utilise une image Docker qui va utiliser Python LaTeX. Il va exécuter un unique job qui consiste à exécuter ma chaîne de test unitaire. Et j'ai rajouté un petit job qui va créer des artefacts. Alors, il va en faire deux. Donc, il va créer Hello World dans file 1. Et il va mettre L in World dans file 2 qui sera dans un dossier pour vous montrer un petit peu la différence. Ensuite, je lui dis, tiens, récupère ces éléments. Tu vas le mettre dans l'archive qui s'appellera MyFiles. Et voici le chemin des éléments que je veux que tu récupères. C'est file 1 et folder slash file 2. Alors, je vais committer la création de ce truc-là. Et je vais revenir à mon projet. Et là, ah, il y a un truc nouveau qui est apparu ici. C'est ce petit logo-là, commit en cours. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, me voici dans le pipeline de mon projet. Donc là, c'est le tout premier pipeline. Alors là, vous voyez que il y a deux tâches. Il y en a une qui est en pause, là. Celle-ci vient de se terminer. Alors, si je clique dessus, on peut voir le résultat. Donc, on voit le déploiement de la page. On voit que le job a été réalisé avec succès. Je reviens dans ma liste de tâches. Le deuxième, c'était mes artefacts. Il a été fait avec succès. Donc là, on a accès à la console de tout ce qui a été fait. Tout ça, c'est conservé. Pour chaque pipeline, vous les retrouvez dans le temps. Vous pouvez les réexécuter, si nécessaire, avec le bouton réessayer. Et ici, là, vous avez ce petit truc nouveau. Là, c'est Download Artifact. Donc, c'est là que je peux récupérer mes fichiers. Donc là, vous voyez qu'il s'appelle myfile.zip. C'est ce que je vais préciser dans le don. Donc, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc, là, dedans, je vais retrouver mon fichier et mon deuxième fichier qui est dans le dossier. Et vous constatez que j'ai conservé l'arborescence. Donc, si vous voulez avoir un zip dans lequel vous avez, vous voulez vous abstraire de cette arborescence initiale, pour ça, il suffit de rajouter dans le script de votre job, move les éléments que vous voulez dans la racine de l'exécuteur, et ensuite vous mettez artifact avec la liste des fichiers, et là ils sont tous dans le même au même niveau. Alors je vais revenir sur mon dossier. Donc là on voit qu'il y a mon petit logo qui me dit que le commit a été réussi, que la chaîne était réussie. Il y a un petit truc nouveau ici, c'est télécharger mes artifacts. Donc si jamais il y a plusieurs artifacts, ils vont tous apparaître ici. Petit mot supplémentaire aussi, les artefacts peuvent être conservés ad vitam aeternam pour chaque commit, ou alors ils peuvent avoir une date de péremption. C'est un truc qui est possible. Je crois que par défaut, il y a une date de péremption. Moi, il me semble qu'en tant qu'administrateur, j'avais décoché les dates de péremption par défaut. Et voilà. Donc là, je vous ai montré la création d'un petit projet, l'activation du déploiement continu. Alors, je vous ai copié-collé le GitLab YAML, c'était facile, mais bon, comment savoir que ça marche? Je vous avais dit, il existe un linter. Alors, pour ça, vous avez ici, sur le côté, vous avez toutes les options. Et là, vous allez dans intégration et livraison continue. Donc là, vous allez dans pipeline ou dans tâche, au choix. Donc c'est là où on était tout à l'heure. Là, on retrouve le pipeline qui a été exécuté, on a même la date qui sera affichée. Et là, vous avez ce petit bouton, c'est e-lin, qui est très discret. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez copier-coller votre script et vous le testez. Donc là, il me dit la syntaxe est correcte, en fait, et en plus, il me fait une petite analyse. Donc là, j'ai un premier job, voilà ce qui est exécuté dans le premier job, voilà ce qui est exécuté dans le second. Il me dit quels sont les only policies, donc là, ce sera, en gros, ce sera exécuté dans n'importe quel cas. pour les branches, pour les tags, absolument tout. Quand, enfin voilà, il y a tout un tas de petites analyses supplémentaires pour chaque job, c'est assez bien foutu. Alors si on veut être un peu complet, je peux vous montrer ce qui se passe quand on casse notre code. Donc pour ça, je vais aller dans mon code. Je vais éditer mon petit code. Et je vais faire un truc bête. Voilà, je vais ici, je vais remplacer un renvoi true par false, donc ce qui va casser le fonctionnement de ma fonction. Je commit. Je reviens dans la fenêtre principale du dossier. Je vois que ma chaîne d'exécution est relancée. Là, on voit le petit truc, il est en cours. On va y jeter un œil. Alors, test job en cours. Je vais cliquer dessus et voir ce qui se passe. Ah, il a cassé. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc là, là c'est la syntaxe Python. Il va me dire que il a cassé à ce niveau-là. Voilà, test fonction is prime, au moment de l'insertion temps, etc. Voilà, donc on retrouve ici, grâce au terminal, ce qui se passe dans le détail. Et là, si on voit, voilà, là c'est la vision par job, donc on voit tous les jobs qui ont été lancés depuis le début, donc on voit ceux qui ont réussi, donc ça c'est les artefacts et ceux qui ont échoué. Et si on voit par pipeline, donc on voit un premier pipeline qui a réussi et un autre pipeline qui a échoué. Voilà, et donc là, au final, on voit que le petit logo avec la croix rouge, la chaîne d'intégration continue pour ce commit a échoué. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour l'intégration continue. Je vais m'arrêter là et je vais écouter vos questions. Je vais couper le partage d'écran pour le moment. Et voir, jeter un œil sur les notes partagées.
Merci Baptiste. Donc il y a pas mal de questions et de commentaires. Je te laisse les regarder et y répondre dans l'ordre que tu préfères.
D'accord, je vais les faire dans l'ordre d'apparition. Alors, qu'advient-il du commit si la batterie de test ou si certains tests échouent? Alors, si il n'y a pas d'étape, ils vont tous, comme tous les jobs sont lancés de manière concurrente, ils vont tous être exécutés. Et on va juste avoir le report de tiens, tel job et tel job a échoué. Si on a fait des étapes, des stages, et que l'un des jobs dans le stage a échoué, dans ce cas-là, l'étape suivante ne sera pas lancée. Donc si jamais vous avez des étapes séquentielles et que l'un des jobs concurrents de l'étape échoue, ça s'arrête là. Enfin, les autres jobs concurrents font leur vie, mais ça bloque le lancement de l'étape suivante. Alors, est-ce que c'est configurable? Oui, c'est configurable. On peut rajouter un mot-clé qui permet de dire si jamais ce test échoue, continue, ne casse pas la chaîne. Donc c'est un mot-clé qui peut être ajouté, je l'ai oublié, je pourrais le retrouver. Et est-ce qu'on peut rejeter automatiquement le commit? Alors non, le commit sera validé. Par contre, ce qu'il faut, c'est le penser de manière plus large dans le cadre d'un travail de groupe. Quand on fait un commit, on le fait sur sa propre version du code, y compris sur GitLab. Par contre, au moment où on veut le partager avec le reste de l'équipe, on va faire un merge commit, on va faire une demande de merge. Et là, l'administrateur, le mainteneur du projet, va voir le merge, il va voir le résultat de la chaîne d'intégration sur ce commit. Et s'il voit que la chaîne a échoué sur ce commit, il va refuser le merge. Voilà, donc c'est comme ça que c'est intégré. Le résultat de la chaîne d'intégration est au bon jugement des humains qui font vivre le projet. Le commit ne sera pas rejeté. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de rejeter le commit, parce que ça permet justement de voir l'effet du commit. Alors, remarque, le mot commit doit venir de bien avant Git. Oui, je pense que tu dois avoir raison. Je ne me suis pas creusé sur l'histoire. Alors ensuite... Qu'est-ce que c'est l'histoire de Git Alias? Ah, alors, Git Alias, c'est une fonctionnalité de Git qui permet de redéfinir les commandes de Git. Donc, les gens qui l'utilisent ne sont pas sans savoir que Git a une interface assez horrible. J'adore ce truc-là, mais j'avoue que elle n'est pas très cohérente, la documentation dans le man n'est pas terrible. C'est pas super facile d'usage. Personnellement, je l'utilise beaucoup, c'est-à-dire que je redéfinis certaines commandes que j'utilise souvent. Je leur donne un nom. Et pour ça, il suffit de faire git alias, et c'est un peu comme l'alias dans un shell, et ça permet de reconstruire, de définir une nouvelle commande. Ou alors même d'ajouter quelque chose à une commande existante. Donc là, dans le cas que je vous disais, vous pouvez faire git alias, et là vous mettez entre quotes, il me semble, commit. Ensuite, les éléments récupérés, point virgule, make test. Voilà, par exemple. On me répond, j'ai l'impression que Mathis utilise les alias git à configurer avec git config, c'est exactement ça, pour lancer ses tests avant de valider son commit. C'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Une alternative est d'utiliser les hooks git. Voilà, voilà. De toute façon, quelle que soit la manière dont vous le faites, si vous avez réussi à automatiser le lancement de votre chaîne d'intégration sur votre machine, bravo, vous faites de l'intégration continue. Alors, les transparents sont-ils disponibles? Mes transparents, c'est du HTML, donc je les fournirai aux organisateurs. Je ne sais pas si ce sera simple pour vous de les faire. Je sais que j'ai fait une version sans les affichages incrémentaux pour cet usage. Je le partagerai avec grand plaisir. Question suivante. Est-ce que quelqu'un a une expérience sur l'utilisation du GitLab Runner installé sur un supercalculateur? Alors, personnellement, moi, non. Y a-t-il ne serait-ce qu'un centre qui autoriserait cette pratique? L'idée serait d'automatiser la compilation d'un code pour mise à disposition aux membres d'un projet. Alors moi, j'ai pas d'expérience de retour là-dessus. Je vois qu'il y a des gens qui répondent, qui sont certainement plus compétents que moi. Et les gens que ça intéresse, je les renvoie là-dessus. Alors, autre question. Au lieu de définir des étapes, ne peut-on déclarer plus généralement des dépendances entre tests? Et après, le système se débrouille pour lancer un maximum de tests au fur et à mesure en respectant les dépendances. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce que fait Git avec ce mix entre, GitLab avec ce mix entre concurrents et stage, avec en plus la granularité de rajouter l'option qui permet de ne pas briser la chaîne si jamais il y en a qui échoue. Quelqu'un a répondu. Alors oui, c'est possible via le mot-clé dependencies. Ah ok, donc j'ai mal compris la question. On peut créer un graph acyclique dirigé de job. Ah, c'est super, j'apprends quelque chose. Chaque job sera exécuté dès que ses dépendances sont satisfaites, mais on est tout de même obligé de ranger les jobs dans des stages. Le contraire m'aura étonné pour le moment. La migration du fonctionnement en stage. Voilà. Ok. Merci à Maxime Pigou pour la réponse. Tu m'as appris quelque chose avec le graph acyclique dirigé. Alors, j'ai répondu sur le sudo GitLab Runner Register. GitLab Runner est un simple exécutable téléchargeable et il peut être exécuté avec les permissions utilisateurs. Pas nécessaire d'être root si vous voulez faire des tests. OK. Alors, on a une réponse de Julien Coulet. Cette pratique est néanmoins dangereuse au sens où le runner agira dans ce cas avec vos permissions d'utilisateur, à réserver pour des tests sur projet perso. Ouais, je pense que l'intérêt, c'est de l'installer au niveau machine et de l'utiliser ensuite en tant qu'utilisateur. Alors, en tout cas, moi, je me suis contenté de suivre la recommandation de la documentation. On est en informatique, tout est possible. Moitié Boileau. Intéressant, depuis la version 13.8, l'éditeur de fichiers GitLab CI.yaml. Alors, je vais aller de ce pas. Jeter un œil à ça. Ah non, excusez-moi pour le changement d'écran. Pipeline Editor. Super. Écoutez, moi, mon instance n'est pas à jour et je ne l'ai pas mis à jour parce que je faisais, je m'en servais aujourd'hui pour ce talk. Donc, je n'ai pas vu ce truc-là. C'est super, un nouvel outil. C'est très récent. Ok. Bah, merci Mathieu, j'apprends un nouveau truc et c'est un outil qui m'intéresse beaucoup. Autre question. Comment faire pour qu'un test unitaire consiste à comparer le résultat d'une exécution avec le résultat de l'exécution pour le commit précédent? Ouh, c'est pointu, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est possible en utilisant les mots-clés intégrés avec les. les références de commit. Il y a des variables qui permettent de le faire. En utilisant couplé à des artefacts, je pense que ça doit être possible. Par contre, j'ai aucune idée de par où démarrer. Perso, je préfère versionner les résultats attendus. Alors, quelqu'un l'a fait. Je l'ai fait avec un cache par branche. Garde en mémoire les résultats de la pipeline précédente sur la même branche. Ok, donc il y a des gens qui sont très forts. Merci pour la réponse. Autre question. Quelle est la config à faire pour qu'une MR, je ne saisis pas ce qu'est la MR. Ah, merge request, merci. Ne puisse être soumise que si les tests passent. Alors, quelqu'un répond. Merci, parce que j'aurais pas forcément pu répondre. Vous pouvez cocher la case pipeline must succeed. D'accord. Autre question. Quelles sont les limites des runners adossés à GitLab, volumétrie et temps de calcul? Alors, ça, c'est très, très configurable. C'est quelque chose sur lequel j'avais passé un petit peu de temps, d'ailleurs, au niveau du runner lui-même, les configurations.toml, il y a pas mal de variables qui permettent de définir quelle sera l'utilisation des ressources, en termes, par exemple, de... Moi, j'utilise une machine virtuelle, donc j'ai un petit peu de mal à configurer l'utilisation de la ressource CPU, on peut lui dire quelle est la ressource... mémoire maximale, il y a aussi le temps de calcul maximal qui est configurable il me semble à la fois depuis le runner et à la fois c'est sûr depuis l'instance GitLab, ce qui signifie qu'une fois qu'on a passé par exemple 1 heure maximum, et ben au bout d'une heure paf le truc est coupé et c'est mort. Ça m'est arrivé par exemple de renvoyer les utilisateurs vers un autre serveur de calcul en disant si visiblement le truc que vous exécutez est très gourmand, donc autant l'exécuter sur le serveur de calcul, il sert à ça plutôt que sur un runner. Donc il faut trouver le juste milieu entre les usages. En tout cas, en termes de tout ça est configurable, soit au niveau de l'instance GitLab, soit depuis le runner directement. Autre question. Alors, cas d'usage un peu spécifique, dans le cas d'un langage compilé, avez-vous une solution pour séparer proprement le stage de build et de test lorsque la taille de build est conséquente? Comment transmettre la build entre les deux stages? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre, ne pas le faire sur Docker et utiliser comme exécuteur le shell directement. Ça, à mon avis, ça permettrait de faciliter certaines choses. Ça... Implicitement, je suis en train de dire qu'il faut avoir un runner spécifique associé au projet que vous avez installé vous-même. En tout cas, c'est comme ça que je prendrais ce problème-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. Je ne sais pas si je réponds aussi à la question. Alors, dernière question, est-il possible de programmer les jobs à des moments prédéfinis plutôt que juste les runners triggés par les commits? Oui, tout à fait. Il y a une option dans GitLab qui permet de le faire. Il y a une option, il y a un mot-clé que je n'arriverai pas à retrouver tout de suite qui permet d'être... schedule, merci. Qui permet de le mettre dans votre recette. Et il y a encore la notion de job manuel qui permet de lancer le job uniquement s'il est trigué par l'utilisateur. Donc là, il faut que vous appuyez sur un bouton qui apparaît seulement s'il existe des jobs manuels. Et dans ce cas-là, vous le lancez vous-même quand il faut. Ou alors, vous pouvez mettre aussi des conditions. Par exemple, seulement si c'est... Donc on l'a vu, le cas, seulement si c'est une branche avec un tag. Ça peut être seulement si c'est telle branche nommément. Ça dépend si c'est tel utilisateur. Alors, on peut faire tout un tas de... Il y a aussi le mot-clé when qui permet de mettre tout un tas de conditions assez fines. Voilà, donc a priori, pour ce genre de cas, oui, c'est largement possible. Voilà, donc là, j'ai répondu à l'ensemble, à certaines des questions qui étaient dans la note partagée. Certaines ont été déjà répondues par des gens qui étaient bien plus compétents que moi, je les remercie. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, même à l'oral, je vous écoute. Et sinon, ça va faire un petit moment qu'on discute. On pourra se quitter là-dessus.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, quand on aura les transparents de la présentation, on les mettra sur la page Indico du café. Donc, vous pourrez les récupérer là-bas et normalement, vous pourrez aussi les récupérer sur la page du café sur le site web du groupe Calcul. Merci encore. Alors, comment être notifié des futurs cafés? Donc, on essaye de faire une annonce sur la liste Calcul et aussi sur la liste Calcul ASR. Pour l'instant, je crois qu'on ne fait les annonces que sur ces deux listes-là. S'il y a d'autres canaux qui vous paraissent adaptés, on peut peut-être envisager communiquer plus largement. On a aussi sur le site internet, il y a une petite page pour chacun des cafés et sur la page Indico, il y a une catégorie café du groupe Calcul. Donc, si vous allez de temps en temps vérifier, vous verrez les futurs cafés annoncés avec la date. Et pour l'enregistrement, alors voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Je peux pas vraiment vous promettre de date. Normalement, alors mes collègues du bureau me contrediront si je dis une bêtise, mais normalement, ils seront mis en ligne les enregistrements sur un service d'hébergement de vidéo dont j'ai oublié le nom mais que je recherche là pour vous le donner. Ça va peut-être me revenir. Est-ce qu'un des Mathieu peut répondre à...
Je vois un canal U.
Ah voilà, Canal U. Donc on a maintenant le compte sur Canal U et il faut qu'on traite les vidéos et qu'on les upload. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune des questions. Alors, qu'est-ce que c'est Canal U? Alors, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est un projet, je pense institutionnel, qui héberge des vidéos issues du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les institutions ont chacune leur chaîne en fait sur Canal U. Donc il y a beaucoup d'universités par exemple hein, qui ont une chaîne. Donc je vois là je suis sur la page, il y a l'université de Lille, l'université Pau et Pays de l'Adour. Il doit y avoir des instituts, donc il y a l'IPSL, voilà, et c'est donc nous on a maintenant notre chaîne Groupe Calcul, et c'est des séminaires où je suppose qu'il doit y avoir des cours pour certaines des universités. Est-ce qu'il faut une authentification pour Canal U? Alors pour visionner les vidéos, je crois pas, non. Je pense qu'on peut les voir sans s'enregistrer. Alors je ne suis pas enregistré, je vais voir si je peux lancer celle du groupe Calcul, par exemple. Voilà, ça marche, il n'y a pas de problème.
Alors, je découvre en même temps que beaucoup d'autres Canal U, ça a l'air super.
Donc ça va nous demander sans doute un peu de temps. Alors je dis nous, mais en fait c'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Donc ça va demander peut-être un peu de temps à mes collègues pour récupérer la vidéo et la mettre sur Canal U, mais elle va y arriver sous peu. Voilà.
Alors, comment s'appelle la chaîne?
Donc c'est Groupe Calcul, c'est la chaîne Groupe Calcul. On mettra un lien aussi sur notre site web et j'essaierai de le rajouter sur la page Indico pour les gens qui se référeront à ça pour retrouver les supports.
D'accord, trouver. Il y a beaucoup, beaucoup de chaînes. C'est vraiment super ce canal.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter. Merci encore à Baptiste. Merci à tous les participants. Et donc le prochain, c'est le 8 mars sur les éléments finis et le calcul parallèle avec les éléments finis par Frédéric Nataf. Voilà. Bonne fin de journée.
Merci. Merci à tout le monde.
Au revoir.